Il est quasiment 18h, il fait toujours très, très, très chaud partout en France. Enfin, essentiellement dans les départements, il y en a plus de 50 hein, qui sont en vigilance rouge. Mais ceux qui sont en vigilance orange, il fait pas froid non plus, comme disait l'autre. On va justement en parler avec Arthur Escudé. Il est dans le parc des Buttes-Chaumont. Il est à Paris où on cherche désespérément de la fraîcheur, Arthur.
Oui, je peux vous dire qu'on l'a trouvé cette fraîcheur ici. Hein. Regardez sur ces images, il y a quelques gens qui se sont mis un petit peu à l'ombre. Et nous, on a rencontré Sofiane. Mais justement, Sofiane, il fait partie de ces personnes qui sont venues chercher de la fraîcheur. Bonsoir Sofiane, merci d'être avec nous. Racontez-nous, c'est vrai qu'on est mieux ici finalement que dans la rue ou même chez soi.
Ouais, c'est ça. Ben, on sent un peu de frais dans Paris, c'est pas mal, ça fait du bien. C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment, donc c'est plutôt pas mal de pouvoir se rafraîchir un petit peu dans Paris. C'est pas mal, ouais.
Vous allez rester ici longtemps. On attend une nuit caniculaire. Il fera 28 degrés à minuit. Est-ce que vous avez prévu de rester un peu plus de temps, du coup, que la normale?
Non, pas spécialement, mais oui, effectivement, ça peut arriver. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, c'est que oui, surtout quand le temps rafraîchit un petit peu, c'est agréable dans Paris. Donc ouais, c'est cool.
C'est difficile justement dans Paris de trouver des îlots de fraîcheur quand il fait aussi chaud.
Oui, bah oui et non. On va dire qu'il y a beaucoup de monde, donc forcément c'est vite saturé. Mais techniquement, non, c'est trouvable. Il y a le canal Saint-Martin, il y a différents parcs, les quais de Seine. Donc non, ça va. Franchement, ça va, ça va.
Eh bien, on vous laisse profiter de cette fraîcheur. Il va continuer à faire très chaud, hein, je le disais, jusqu'à 28 degrés cette nuit aux alentours de minuit. Nous, on s'est quand même équipé d'un brumisateur. C'est la seule façon de se faire du bien à l'heure actuelle parce qu'il fait encore 37 degrés. Donc, pensez à votre petit brumisateur.
Vous avez votre brumisateur, vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous êtes au Buttes-Chaumont, on sait bien, avec des zones d'ombre. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'il fait plus frais, mais on se protège un temps de soit peu. Mais là, au parc des Buttes-Chaumont, qui est très prisé par les joggeurs, vous avez vu quand même quelques inconscients qui faisaient leur sport ou pas?
Eh bien, pour tout vous dire, non, on les a cherchés, ces joggeurs, pour voir s'ils prenaient le risque, justement, de faire du sport ce soir. Il y en a pas beaucoup. On en a presque pas vu parce que il fait vraiment extrêmement chaud, beaucoup plus chaud que d'habitude. Donc, il vaut mieux pas prendre de risque ce soir, même si on est dans un parc à l'abri.
Merci, Arthur Destugué, avec Arthur Descudé, pardon, avec Clément Grosdenier. Marc Hay, température, record battu et, on a mis la barre très haut aujourd'hui.
Ah oui, en effet, puisque alors on aura d'ailleurs un nouveau décompte là d'ici une vingtaine de minutes, mais pour l'heure on est à 459 records de chaleur battus ou égalés, dont 102 records absolus, hein, ce qui veut dire que ces villes hein, concernées n'avaient jamais connu de telles températures tout mois confondu. Puis il y a surtout des records hein, qui sont assez impressionnants. Je pense notamment au record de Bordeaux qui a enregistré cet après-midi une température de 41 degrés 9. Station ouverte en 1920, précédent record 41 degrés 6, c'était en août 2025. Et la liste est très longue, hein, 43 degrés 3 à Châteaumeillant dans le département du Cher, 42 à Saintes, là aussi, hein, ce sont des records donc qui sont pulvérisés cet après-midi.
On s'y attendait, on avait prévu hein, cette deuxième vague caniculaire. Les météorologues nous l'avaient dit quand on était sortis de la précédente, disons, attention, elle risque d'être plus importante. Mais celle-là, elle vous surprend, Gaël, ou pas?
Elle nous surprend par son intensité.
Et sa longueur, hein, parce qu'on voit pas trop quand est-ce qu'on va en sortir.
On a peut-être du rafraîchissement et encore, mais léger à voir en fin de semaine et encore, c'est à confirmer. Mais effectivement, on est sur 2003, sur 15 jours. Hein, souvenez-vous, 1er août, 15 août 2003, on avait effectivement, au-delà des températures extrêmes, la durée qui est extrêmement pénible. Donc là, effectivement, on est là tous en train d'espérer, tous vraiment, que cet épisode puisse se terminer et qu'on puisse avoir des températures un peu plus fraîches et chercher évidemment la fraîcheur où qu'elle soit, par quelques moyens que ce soit, des brumisateurs, des climatiseurs, des ventilateurs, des ruptures de stock partout sur des ventilateurs, c'est-à-dire à quel
Mais
point
tout à l'heure,
ça a un impact.
On avait la discussion, Patrick Peloux était là, c'était le médecin urgentiste qui officiait au moment de la canicule de 2003. Et il a dit en 23 ans, ben finalement, on n'a pas tiré tous les enseignements. Certes, il y a des choses qui ont été améliorées, notamment dans les EHPAD, pour les personnes âgées, mais les îlots de fraîcheur, ben on n'en a pas construit tant que ça. Des bâtiments qui soient pas aux dernières normes énergétiques, ben on en a construit, et il y en a encore des passoires thermiques. Donc, le boulot, il est encore devant nous, surtout si ces épisodes se renouvellent et s'intensifient, quoi, de toutes les manières.
Il est derrière et devant. Je lis quelques ouvrages en ce moment sur des constructions anciennes, notamment sur le massif des Corbières. Par exemple, on avait comme tradition en France de construire une chambre d'été, une chambre d'hiver, orientées différemment les unes des autres pour que l'été et l'hiver, on ait évidemment profité des températures Clément. Et effectivement, avec le progrès, on a amené le chauffage, on a amené des radiateurs, on a amené des chaudières performantes, hein, et c'est bien. Mais on a parfois oublié de vivre et d'orienter nos maisons, d'orienter nos bâtiments, d'orienter nos ouvertures avec ces cycles de saison et avec les cycles du soleil. Et ce que l'on vit en ce moment, c'est on pouvait pas avoir cette canicule au plus mauvais moment. On est en plein solstice d'été, 16 heures de jour, 8 heures de nuit. C'est par rapport à août 2003, où les journées étaient plus courtes. On avait encore ce petit facteur atténuant et ça avait déjà été dramatique. Donc imaginez aujourd'hui ce que ça représente en pénibilité.
Surtout que là, on est à peine fin juin.
Tout à
fait. On n'a même pas attaqué encore le mois de juillet.
C'est autant de fatigue cumulée, d'impact aussi sur les réseaux. Hein. Là, on a demain 20 départements en vigilance orange feu, forêt, feu de broussailles, feu de végétation. Donc c'est dire à quel point aussi ça impacte la végétation et pas que les corps.
Mais Ludovic Pingano, justement, parce qu'on entend nos responsables politiques dire il faut agir, on prend toutes nos précautions, voilà les conseils à suivre. Ils sont même en cellule de crise, avec un nombre incalculable de ministres autour du chef du gouvernement. Mais on se dit, est-ce bien utile tout ça finalement? Parce que c'est du long terme qu'il faut maintenant, c'est prévoir.
Alors oui, alors c'est prévoir, il aurait fallu anticiper, puisque là j'ai l'impression qu'une fois de plus on découvre que cette canicule va nous impacter. Beaucoup de difficultés de prendre des décisions qui certes ne sont pas simples à prendre, des décisions courageuses, mais qui doivent être prises par anticipation, parce qu'on a systématiquement un temps de retard. Patrick Pelou l'a bien rappelé, et moi je me souviens très bien en 2003, justement, quand Patrick Pelou a dit « Mais stop, il est en train de se passer quelque chose de très grave en France parce que nos hôpitaux sont saturés, parce qu'on a des patients qui décèdent dans les couloirs des urgences ou dans des lits d'hôpitaux. » C'est lui qui a lancé l'alerte à ce moment-là, pendant que le ministre de la Santé, lui, était au courant de rien et était tranquillement en vacances. Mais ça, c'était, j'allais dire, la première alerte. Parce qu'il y a eu la deuxième ensuite. Moi, à l'époque, j'étais en poste dans un centre opérationnel de sapeurs-pompiers. Il y a eu le deuxième effet, c'est qu'on a découvert des semaines plus tard des personnes âgées notamment, ou des personnes fragiles, décédées dans leur appartement, qui avaient été oubliées de tout le monde, de la société, de leur famille, de leurs amis, de leurs voisins, etc. Et là, déjà, ça, c'était 2003. Donc, oui, derrière, il y a eu des choses de fait. Un plan national de canicule. Mais un plan, c'est bien joli, mais il faut se donner les moyens de le mettre en œuvre. Il faut recruter du personnel, il faut se donner les moyens techniques de réagir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est à la ramasse complète. Quand j'entends qu'on commande des ventilateurs en ce moment pour les mettre dans les écoles parce qu'on s'aperçoit qu'il fait chaud, je me dis qu'il y a quand même un problème chez nos décideurs pour anticiper ces situations. Gaël, à l'instant, parlait d'ouvrages qu'il lisait. Moi, il y en a un que j'ai lu il y a longtemps et que j'aime bien citer, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu, qui disait « Il est trop tard de se boucher les oreilles quand le coup de tonnerre éclate ». On est en plein dedans. Je veux dire, à un moment donné, prenons des décisions qui vont nous servir
surtout
pour l'avenir.
Les rapports existent maintenant depuis longtemps pour dire que ça va s'amplifier et il vaut mieux faire les installations, quitte à ce qu'elles ne servent pas tout de suite. Mais au moins, quand ça s'intensifie, que ça s'amplifie, elles sont là. On va prendre une illustration supplémentaire parce qu'on va aller en Gironde. On est à Talence et où on va retrouver Thomas Girard pour BFM TV. Parce que Thomas, quand vous regardez le thermomètre, c'est pas compliqué. Vous avez la même température qu'à Abu Dhabi.
Tout à fait, regardez mon thermomètre, il affiche 41 degrés du côté de Talence dans l'agglomération bordelaise. Il fait très chaud, l'atmosphère est lourde, c'est insupportable, il faut le dire. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a très peu d'habitants qui se baladent dans les rues depuis cet après-midi, car à cette heure-ci, il est impossible de marcher sous cette chaleur. Et je me trouve avec Ivan, vous êtes habitant de la commune. Que ressentez-vous là cet après-midi?
C'est vraiment un four, une fournaise. On a l'impression de sortir et rentrer dans le four. C'est exactement ça.
Comment vous faites pour vous rafraîchir là? Quelles sont les techniques?
Pour moi déjà, il y a un chapeau, un brumisateur et dans la rue. Après, à la maison, on avait mis des moustiquaires partout. Et donc, on ouvre dès qu'il commence à tomber le soir. Avant, on ouvrait que le matin. Maintenant, c'est dès le soir. Comme ça, la maison a toute la nuit pour se rafraîchir. Et donc, le matin, ça va et on arrive. Et après, on est malheureusement obligé à tout fermer, rester dans les noirs toute la journée. Mais ça permet de rester dans les 25-28.
Merci beaucoup Ivan, on vous souhaite évidemment beaucoup de courage hein, sous cette chaleur des habitants qui s'apprêtent à passer une soirée mais surtout une nuit très difficile car les températures ne vont pas redescendre sous les 24 degrés ici à Talence en Gironde.
Attention à l'écran total, hein, mon cher Thomas Girard, hein, profitant parce que votre Ivan, lui, il a un chapeau, vous êtes tête nue, hydratez-vous, mettez, mouillez-vous le dessus de la tête, et puis un bon 30 ou 50, hein, je vous le conseille quand même, sous la supervision de nos petits camarades. Marc, et il y a la température là, 41 degrés, ce que nous disait Thomas, c'est insupportable. Il y a le 41 degrés affiché, et puis il y a ce que l'on ressent. Aussi, c'est le fameux ressenti des températures.
Ah oui, en termes de ressenti, là on est par endroit du 46-47 en termes de ressenti. Hein. Donc là on est vraiment dans une situation de danger, hein, la combinaison entre la chaleur et l'humidité. Et puis surtout, c'est une chaleur hein, qui concerne pas uniquement une petite portion du territoire. Là on l'a dit, demain 54 départements placés en vigilance rouge canicule. Et je vous parlais tout à l'heure de la liste des records de chaleur. Il y a des records de chaleur absolus, notamment à Bordeaux ou encore à Saintes, mais les records absolus remontent également en direction de la Bretagne. Ploërmel, dans le Morbihan, station ouverte en 1951, 40 degrés cet après-midi, jamais il n'avait fait aussi chaud, tout mois confondu, y compris en plein cœur de l'été. Rennes, Ille-et-Vilaine, 40 degrés 6. Nous sommes le 22 juin, il fait 41 degrés. En Bretagne, il fera peut-être demain 42, 43 degrés entre la Bretagne et la Normandie, c'est totalement inédit.
Mais on a le fameux débat qui revient à ce moment-là sur le bâti, sur les écoles, sur la climatisation, sur les ventilateurs. On se dit que quand même, là, même dans les écoles, dans un pays où l'instruction est obligatoire, l'éducation est obligatoire, on aurait pu anticiper, on aurait pu se dire, on place des ventilateurs, quand l'été va arriver, ils sont là. Or là, on a des enfants qui disent, bah, rentrez chez eux, vous ne pouvez pas rester à l'école.
Le ventilateur à 43 degrés, non, mais ça ne change pas grand-chose.
Bien sûr, quand on est à 43 degrés, mais quand on est dans des températures un peu inférieures quand même, pour les enfants, pour soulager l'école, c'est quand même bien aussi.
Il faut bien comprendre la temporalité dans laquelle on est. On a d'un côté des problèmes qui ne peuvent pas se régler en un mandat. Donc le gouvernement actuel est tributaire des décisions qui n'ont pas été prises 10, 15, 20, 30 ans en arrière. Donc ça, c'est qu'on s'accompagne. On est sur plusieurs dizaines de milliards d'euros nécessaires pour rénover toutes les écoles. C'est des dizaines de milliers d'établissements. Et d'un autre côté, le gouvernement est responsable et comptable de la situation, de l'organisation de la solidarité, de la réponse à l'urgence. Et effectivement, là, sur les décisions qui ont été prises récemment, on est en train de mettre en difficulté les futurs gouvernements. Quand on réduit d'1,6 milliard le fonds vert, on passe de 2,4 milliards à 800 millions, alors qu'il en faudrait plusieurs dizaines de milliards. Donc
même MaPrimeRénov' aussi, qui a été
quand
raboté.
Quand on rabote tout ça, c'est 5, 10, 15, 20 milliards d'euros dans plusieurs décennies qu'il nous faudra en urgence, sans compter sur le fait que les finances publiques ne seront pas forcément dans un meilleur état dans des décennies. Donc, si vous voulez, c'est cette espèce de schizophrénie permanente où on pense faire des économies aujourd'hui pour cocher les cases, mais en fait on est en train au final de condamner des écoles, des hôpitaux à avoir des conditions climatiques encore plus difficiles dans les années à venir.
Oui, d'où la réunion et la cellule de crise, mais ça il faut tirer des enseignements, parce que faire une cellule de crise ensuite c'est passer à la prévention et c'est dire voilà ce que l'on fait sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, parce que c'est ça l'important. C'est comme pour les inondations, la sécheresse, on a l'impression qu'ensuite chaque année sur BFM TV on répétera les mêmes choses, quoi.
La cellule de crise elle est là pour apporter des solutions à un événement qui est en cours.
Ouais.
Cette cellule interministérielle de crise, elle sert à ça.
Après, c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience.
Mais c'est là où ça deviendrait en tout cas beaucoup plus intéressant. Là, pour l'instant, il y a une fonction situation qui réceptionne des informations des centres opérationnels ministériels et des préfectures pour, en gros, savoir ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Une fonction anticipation qui est là pour envisager des événements, redouter la suite de la situation et proposer des décisions à l'autorité, avec des arguments, et de façon régulière, le matin et le soir en ce moment, vous avez la fonction décision qui se tient sous la présidence du Premier ministre, où là, il s'agit d'arbitrer les décisions. Mais là, on est encore une fois dans l'action. Il se passe quelque chose et on réagit. Mais c'est quelque part mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est pas comme ça qu'on va régler définitivement la situation. Et vous avez parfaitement raison. Il va falloir à un moment donné qu'on se pose et qu'on dise maintenant qu'est-ce qu'on fait. Alors, certes, on peut pas tout faire d'un seul coup. Mais on peut faire des choses. Et j'ai entendu déjà beaucoup d'autorités disent oui, mais on a prévu de faire ceci, on va le mettre au budget. Alors là, on le dit maintenant. Parce qu'on peut pas dire autre chose que de dire on va mettre de l'argent et on va investir. Mais dans six mois, quand on aura oublié que finalement ces épisodes caniculaires nous arrivent régulièrement, eh bien on prendra d'autres arbitrages qui diront que finalement c'est plus la priorité. On l'a vu l'année dernière, souvenez-vous, sur les feux de forêt avec l'achat des Canadair. Hein. Le président de la République annonce on va acheter des Canadair, vous allez voir, parce qu'on a vécu des feux qui sont tellement terribles que là c'est sûr, maintenant on y va. Et puis six mois plus tard, on n'achète plus des Canadair, mais je ne sais pas quoi, parce que la priorité du moment c'est pas ça. Donc comme le disait Gaël, encore une fois, on est dans une espèce de d'une espèce de schizophrénie où finalement on a l'impression de prendre plein de décisions et au bout du compte, bah, finalement on bouillonne, quoi. Voilà.
Après,
on bouillonne.
Je pense quand même que cette vague de chaleur, elle va quand même. Elle va infuser quelque chose, on le voit là, la canicule en Île-de-France à Paris fin mai, la vague de chaleur, les températures là qui dépassent les 40 degrés, puis on voit d'un seul coup Emmanuel Grégoire qui annonce, bon, j'ai décidé de commander des centaines et des centaines de blocs de climatisation mobile pour climatiser les classes et les crèches. Donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience et que voilà, il y aura quelque chose.
Moi ce qui m'inquiète, c'est que ces décisions souvent, Marc, elles sont prises à l'échelle de l'enquête d'opinion. De l'opinion, pas forcément des grands chantiers. Je prends un exemple de grand chantier qui permet d'avoir la climatisation dans ce studio, la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain, c'est la RATP, l'équivalent de la RATP, mais de la climatisation et du chauffage, 95 ans d'existence. Donc ça fait combien de septennats et de quinquennats pour pouvoir mettre en place ces sujets-là? Et là, on est vraiment pas sur des grands plans à 10, 15, 20, 30 ans où le président de la République ou le gouvernement dit on s'engage pour les gouvernements suivants à mener une action de fond. On va équiper. Le CEREMA le dit d'ailleurs depuis des années. Il faudrait que dans les grandes métropoles hexagonales, on est l'équivalent de la CPCU, qu'on mutualise, qu'on crée un service public de la climatisation et du chauffage pour pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier de conditions climatiques décentes l'hiver et l'été.
Parce que là, pour bon nombre d'entreprises, la solution qui est trouvée, on le comprend, hein, c'est aussi le télétravail, de dire aux salariés, écoutez, restez chez vous. Alors parfois, ils restent chez eux, ils travaillent de chez eux, mais dans des immeubles ou dans des logements qui ne sont pas non plus très adaptés. Donc on voit bien qu'il y a quand même, globalement, à repenser. Et puis il y a tous les conseils de prudence qu'il faut passer, parce que là, on a vu qu'on a eu malheureusement un week-end record au niveau des
noyades.
Des noyades. Alors, ce sont des accidents, parfois des gens qui vont dans des
baigner
dans des endroits où on ne doit pas aller. Et puis, on a eu le drame tout à l'heure à Carpentras de ces deux enfants qui ont été laissés dans une voiture, 3 et 4 ans. On n'a pas toutes les circonstances encore, mais peut-être que les parents ou la mère étaient allés faire des courses et les a laissés quelques minutes malheureusement de trop, quelques minutes fatales pour ces enfants.
Une voiture en plein soleil, hein, alors je regardais les températures, hein, dans le Vaucluse, 35 degrés cet après-midi. Bon, pour le Vaucluse, c'est pas en soi une température exceptionnelle, mais vous laissez une voiture 10-15 minutes en plein soleil, vous avez la température dans l'habitacle qui dépasse rapidement les 50 degrés, et puis vous touchez le volant, votre volant il est à 70 degrés, donc ça monte extrêmement vite, mais c'est un vrai sujet. C'est comme voilà les noyades, malheureusement. Comment empêcher des jeunes de se baigner lorsqu'il fait 40-41 degrés, qu'ils sont enfermés chez eux dans des bouilloires thermiques? Alors, est-ce qu'il faudrait pas mettre plutôt des moyens pour organiser voilà des endroits avec de la surveillance de baignade? C'est plein de sujets qu'il va falloir, en effet, sur lesquels il va falloir se pencher dans les semaines à venir.
Il y a des mesures à prendre, hein. Typiquement, enfin aujourd'hui, dans ces périodes de canicule, et moi j'invite les maires à déclencher leur plan communautaire de sauvegarde, comme ils les déclencheraient en cas d'inondation, comme ils les déclencheraient en cas d'orage, par exemple. Déclencher ces plans communautaires de sauvegarde, ça veut aussi dire qu'en cas de canicule, c'est identifier des zones de baignade qui permettraient aux populations locales de venir se baigner et mettre en place une surveillance sur ces zones de baignade. D'abord, des zones de baignade identifiées comme étant non dangereuses et assurer une surveillance pour qu'en cas de pépin, on puisse intervenir immédiatement. Ça fait partie des mesures qu'on peut prendre.
Là, on a ces images, vous voyez, de ce qui se passe du côté du canal Saint-Martin, où les jeunes viennent s'amuser, viennent sauter du pont. En plus, ça fait une belle photo pour les réseaux sociaux. Bon, c'est normalement interdit, mais c'est compliqué de les empêcher. Là, ce sont vos collègues pompiers qui sont là pour veiller, pour lancer les avertissements aussi, quoi.
Ludovic a raison. Quand on prolonge ce raisonnement-là, Ludovic, on se connaît bien sur les plans intercommunaux de sauvegarde. Dans les agglos, on a la responsabilité des activités culturelles, une médiathèque, une bibliothèque. On a des exploitants de cinéma qui ont lancé un plan ciné-clim où les cinémas sont gratuits pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. C'est aussi ça, les plateaux communaux de sauvegarde, c'est avoir toute la ressource de fraîcheur pour permettre aux populations de se mettre à l'abri.
Ce soir, on refera un bilan de cette journée caniculaire. Et attention, ça va monter encore demain. Dans la France suffoque, BFM TV sera avec tous ses reporters, ses experts sur le terrain pour parler de cette journée. Ce sera une soirée spéciale à partir de 21h, présentée par Maxime Switek. Allez, un dernier détour. Cette fois-ci par la capitale des Gaules, nous sommes à Lyon. Nous retrouvons Romain Étuin du côté du parc de la Tête d'Or, Romain.
Eh bien oui, on a le sourire ici, puisque je ne sais pas si vous le voyez sur ces images de Louis Léger, eh bien on a les pieds dans l'eau, on a piqué l'idée à Agnès et Laurence qui sont venus se rafraîchir ici au parc. Laurence, expliquez-nous, ça fait vraiment beaucoup de bien là, parce qu'il fait 39 degrés autour.
Oui, ça fait vraiment beaucoup de bien et on a été... Je ne connais pas tant que ça le parc de la Tête d'Or. Et on a été très ravis de trouver le bassin rempli d'eau. Voilà, en hiver, il est vidé et ça fait vraiment beaucoup de bien.
Ça fait beaucoup de bien parce que là, on est au parc, il y a beaucoup d'arbres autour de nous, il y a des ombrages, il y a vraiment un écart entre ici et le goudron juste à côté.
Oui. Notamment les quais du Rhône. Le coin de la Roseraie au parc de la Tête d'Or, là, qui est juste... La Roseraie est là, et là, c'est toute la... La partie très feuillue, très arbrée, c'est impeccable. C'est impeccable pour ces journées bien chaudes.
Merci beaucoup. Vous le voyez en tout cas, Agnès et Laurence qui sont en train d'en profiter. Nous aussi, on va rester un petit peu puisque on le disait, il va faire très chaud encore. On annonce potentiellement 40 degrés dans l'heure qui vient. Donc attention aux Lyonnais, il faut se rafraîchir, il faut se mettre à l'ombre.